Une lecture pour Audiocité par Martine de L'Ingénu, un conte de Voltaire. Chapitre 11. Comment l'ingénu développe son génie. La lecture agrandit l'âme et un ami éclairé la console. Notre captif jouissait de ces deux avantages qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant. « Je serais tenté, dit-il, de croire aux métamorphoses, car j'ai été changé de brute en homme. » Il se forma une bibliothèque choisie d'une partie de son argent dont on lui permettait de disposer. Son ami l'encouragea à mettre par écrit ses réflexions. Voici ce qu'il écrivit sur l'histoire ancienne. Je m'imagine que les nations ont été longtemps comme moi, qu'elles ne se sont instruites que fort tard, qu'elles n'ont été occupées pendant des siècles que du moment présent qui coulait, très peu du passé et jamais de l'avenir. J'ai parcouru 500 ou 600 lieues du Canada. Je n'y ai pas trouvé un seul monument. Personne n'y sait rien de ce qu'a fait son bisaïeul. Ne serait-ce pas là l'état naturel de l'homme? L'espèce de ce continent-ci me paraît supérieure à celle de l'autre. Elle a augmenté son être depuis plusieurs siècles par les arts et par les connaissances. Est-ce parce qu'elle a de la barbe au menton et que Dieu a refusé la barbe aux Américains? Je ne le crois pas, car je vois que les Chinois n'ont presque point de barbe et qu'ils cultivent les arts depuis plus de 5000 années. En effet, s'ils ont plus de 4000 ans d'annales, il faut bien que la nation ait été rassemblée et florissante depuis plus de 500 siècles. Une chose me frappe surtout dans cette ancienne histoire de la Chine, c'est que presque tout y est vraisemblable et naturel. Je l'admire en ce qu'il n'y a rien de merveilleux. Pourquoi toutes les autres nations se sont-elles donné des origines fabuleuses ? Les anciens chroniqueurs de l'histoire de France, qui ne sont pas fort anciens, font venir les Français d'un Francus, fils d'Hector. Les Romains se disaient issus d'un Phrygien, quoiqu'il n'y eût pas dans leur langue un seul mot qui eût le moindre rapport à la langue de Phrygie. Les dieux avaient habité 10 000 ans en Égypte et les diables en Cisie, où ils avaient engendré les Huns. Je ne vois, avant Thucydide, que des romans semblables aux Amadis et beaucoup moins amusants. Ce sont partout des apparitions, des oracles, des prodiges, des sortilèges, des métamorphoses, des songes expliqués et qui font la destinée des plus grands empires et des plus petits états. Ici, des bêtes qui parlent, là, des bêtes qu'on adore, des dieux transformés en hommes et des hommes transformés en dieux. Ah, s'il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l'emblème de la vérité. J'aime les fables des philosophes, je ris de celles des enfants, et je hais celles des imposteurs. Il tomba un jour sur une histoire de l'empereur Justinien. On y lisait que des apédeutes de Constantinople avaient donné en très mauvais grec un édit contre le plus grand capitaine du siècle parce que ce héros avait prononcé ces paroles dans la chaleur de la conversation. La vérité luit de sa propre lumière et on n'éclaire pas les esprits avec les flammes des bûchers. Les apédeutes assurèrent que cette proposition était hérétique, sentant l'hérésie, et que l'axiome contraire était catholique, universel et grec. On n'éclaire les esprits qu'avec la flamme des bûchers, et la vérité ne saurait luire de sa propre lumière. Ces linostoles condamnèrent ainsi plusieurs discours du capitaine et donnèrent un édit. « Quoi ? » s'écria l'ingénu, « des édits rendus par ces gens-là ? » « Ce ne sont point des édits, » répliqua Gordon, « ce sont des contre-édits, dont tout le monde se moquait à Constantinople, et l'empereur tout le premier. C'était un sage prince qui avait su réduire les apédeutes linostoles à ne pouvoir faire que du bien. Il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contredire la patience des empereurs, ses prédécesseurs, en matière plus grave. Il fit fort bien, dit l'ingénu, on doit soutenir les pastophores et les contenir. Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. « Quoi ? » dit-il en lui-même, « j'ai consumé 50 ans à m'instruire. et je crains de ne pouvoir atteindre au bon sens naturel de cet enfant presque sauvage. Je tremble d'avoir laborieusement fortifié des préjugés. Il n'écoute que la simple nature. Le bonhomme avait quelques-uns de ces petits livres de critique, de ces brochures périodiques où des hommes incapables de rien produire dénigrent les productions des autres, où les visées insultent aux racines et les fédis aux fénelons. L'ingénu en parcourut quelques-uns. Je les compare, disait-il, à certains moucherons qui vont déposer leurs œufs dans le derrière des plus beaux chevaux. Cela ne les empêche pas de courir. À peine les deux philosophes daignèrent jeter les yeux sur ces excréments de la littérature. Ils lurent bientôt ensemble les éléments de l'astronomie. L'ingénu fit venir des sphères. Ce grand spectacle le ravissait. Qu'il est dur, disait-il, de ne commencer à connaître le ciel que lorsqu'on me ravit le droit de le contempler. Jupiter et Saturne roulent dans ces espaces immenses. Des millions de soleils éclairent des milliards de mondes. Et dans le coin de terre où je suis jeté, il se trouve des êtres qui me privent, moi, être voyant et pensant, de tous ces mondes où ma vue pourrait atteindre et de celui où Dieu m'a fait naître. La lumière faite pour tout l'univers est perdue pour moi. On ne me la cachait pas tant dans l'horizon septentrional où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. Sans vous, mon cher Gordon, je serais ici dans le néant.